Être addict au tabac, à l'alcool, au cannabis et autres substances toxiques, aux jeux et aux écrans n'est pas une fatalité. Pour celle et celui qui veut se libérer de cette dépendance, il y a des solutions. L'Association nationale de prévention d'alcoolologie et addictologie, autrement dit l'AMPA, propose avec une équipe de médecins, d'infirmiers, de psychologues, d'animateurs, dans son centre de soins et d'accompagnement, des consultations gratuites en toute confidentialité. Sur FM Plus 91 FM, aujourd'hui, pour en parler avec nous, Serge Abautrait, éducateur à l'AMPA 34. Alors avant de vous entendre peut-être plus spécifiquement sur votre travail, Monsieur Abautrait, nous allons peut-être à nouveau présenter l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Mais avant tout, bonjour Monsieur Abautrait.
Bonjour.
Alors, comment est-ce qu'est née l'AMPA ?
Alors l'AMPA, c'est une association qui est assez ancienne, notamment l'association nationale qui a été fondée en 1872. Donc c'est une grande maison et une maison qui a aussi beaucoup d'expérience. Elle a été reconnue d'utilité publique et agréée d'éducation populaire. Voilà. Donc par contre, l'AMPA 34 a été créée dans les années 70 par un médecin qui s'appelait le docteur Ripstein, Michel Ripstein, qui était un psychiatre. Et qui, effectivement, recevait donc dans le système asilaire les personnes avec des problèmes d'alcool à l'époque, parce qu'on parlait moins de toxicomanie comme on en parle aujourd'hui.
Et encore moins d'écrans vidéo et de jeux.
Et au moins de jeux et d'écrans vidéo. Mais la seule réponse pour les personnes ayant des problèmes d'alcool à l'époque, c'était le système asilaire, donc psychiatrique. Donc les gens rentraient effectivement à l'hôpital pendant un certain temps, en ressortait sans accompagnement particulier à l'extérieur, si ce n'est que de temps en temps les médecins, mais médecins généralistes n'y connaissaient pas grand-chose non plus. Donc les patients faisaient des allers-retours entre le système asilaire et la ville. Mmh. Et donc les premières consultations ont été menées par M. Ripstein et ses internes à l'extérieur des enceintes de l'hôpital. Mmh. Et c'est comme ça qu'est née l'ANPA 34.
Alors quand on dit l'ANPA 34, bien évidemment ça correspond au département de l'Hérault.
Tout à fait.
Est-ce que ça veut dire que chaque département a créé sa structure de façon indépendante?
Tout à fait. Alors, tous les départements aujourd'hui sont représentés en France. Il me semble que le dernier département où il y a eu une ANPA, c'est dans l'ANPA 11, en tout cas dans la région, hein, où il y a eu effectivement aussi des levées de boucliers de certains de nos viticulteurs. Hein, parce que, effectivement, parler de l'alcool, parler du soin de l'alcool, c'était aussi pour les viticulteurs empêcher l'expansion de la consommation d'alcool.
Mmh. D'où peut-être le retard du département de l'Aude.
Exactement. Alors. Donc, le département de l'Aude, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années, alors que nous, sur Montpellier, ça fait plus de 50 ans. Mmh. Donc, vous voyez, donc, là, les réticences aussi qu'il peut y avoir pour monter un centre avec tous les écueils que ça peut avoir.
Voilà, réticence et lobbying, au fond.
Tout à fait. Alors il y en a d'autres, hein, les lobbyings, mais il y a des groupes qui sont puissants. Le groupe viticulteur est très puissant, hein, de viticulture, mais il y a aussi des groupes comme Pernod Ricard, qui sont des gros groupes, hein, qui détiennent une quarantaine de marques. Et là aussi, il y a des lobbyings auprès des pouvoirs publics. Et voilà. Donc,
Alors une structure aussi ancienne que celle-ci, elle réunit, j'imagine, beaucoup de professionnels.
Tout à fait. Alors sur Montpellier, nous sommes avenue de Fès, 59 avenue de Fès. Nous sommes un XAPA aussi, hein, c'est-à-dire que c'est important de savoir que avant il y avait des budgets sur la toxicomanie et des budgets sur l'alcool. Depuis quelques années, tout a été réuni et donc au niveau des ARS, il y a eu le souhait, hein, de pouvoir harmoniser les pratiques et les financements. Donc nous sommes dans un XAPA, c'est un centre de soins d'accompagnement et de prévention d'addictologie. Et sur les centres d'addictologie, effectivement, il y a plusieurs professionnels, notamment à Montpellier, nous avons 4 médecins, dont un médecin psychiatre, 4 psychologues cliniciennes, 2 infirmières et 2 travailleurs sociaux. Donc vous voyez, et un animateur de prévention, 3 secrétaires et un directeur. Mmh. Donc une équipe vraiment pluridisciplinaire qui s'est formée au fur et à mesure des années.
Alors les personnes qui viennent vous voir, comment arrivent-elles chez vous?
Alors c'est très variable. C'est-à-dire que la personne peut venir d'elle-même, c'est-à-dire que, aujourd'hui, la communication par Internet est extrêmement facile. Hein, donc là, avant, c'était les pages jaunes. Maintenant, effectivement, c'est Internet. Une bonne partie des patients viennent parce qu'ils ont déjà recherché eux-mêmes, orientés aussi par les médecins généralistes, ce qui sont nos partenaires incontournables. Le médecin généraliste restant quand même le maître d'œuvre et le partenaire privilégié. Ça peut être les services sociaux, parce qu'on travaille aussi avec les services sociaux de la ville et les environs. Ça peut être le SPIP, on travaille dans les obligations de soins notamment. Donc le SPIP, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour des gens qui ont effectivement commis des délits sous produits. Et puis après, ça peut être l'entourage, qui est aussi préoccupé par la situation de la personne ayant des problèmes d'addiction, qui cherche et puis qui incite aussi le patient parfois à consulter.
Voilà. Alors, vous avez dit que le XAPA, vous mettez un X
pour... Non,
ça se prononce X. XAPA, donc est situé à Montpellier. Alors, en ce qui concerne le département de l'Hérault en son entier, est-ce qu'il y a d'autres installations?
Oui, tout à fait. Alors, on a ce qu'on appelle une antenne en pays cœur d'Hérault, qui est sur l'hôpital de Clermont-l'Hérault et sur l'hôpital de Lodève. Donc toute la semaine, il y a une permanence hebdomadaire d'infirmières, de médecins, de psychologues, d'éducateurs, donc de travailleurs sociaux. Donc là, qui prennent en charge effectivement les patients sur ce secteur-là, avec des consultations tous les jours de la semaine sur le secteur.
Écoutez, avant peut-être d'en rentrer dans le vif du sujet, plus exactement ce que dans votre profession, votre métier, je vous propose de faire... une brève pause musicale avec Black Rebel Motorcycle Club et leur dernier titre, Let the Day Begin.
Traveling on the open.
Black Rebel Motorcycle Club Let the Day Begin sur FM+, avec l'association et pour l'Association nationale pour la prévention en alcoolologie et addictologie, et notamment, plus précisément, le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ça fait beaucoup de répétitions,
oui, ça fait beaucoup.
Mais c'est qu'on veut être précis sur FM+. Alors là, je suis en compagnie de M. Serge Abautret, qui est animateur, est-ce que c'est bien votre titre? Éducateur spécialisé, voilà. Serge Abautret.
Et consultant en addictologie.
Donc, un éducateur spécialisé, comment est-ce qu'il s'insère dans une équipe que vous avez décrite tout à l'heure avec des psychologues, des psychiatres, des médecins? Vous arrivez à quel moment, vous,
Alors,
Serge Abautret?
Voilà, nous, on est sur une prise en charge pluridisciplinaire, mais effectivement, comme j'ai une formation en addictologie, donc je suis addictologue, une infirmière également. Donc on a en première intention soit une orientation vers l'infirmière, soit vers moi, en fonction de notre disponibilité et de l'orientation qui est faite sur la personne, pour pouvoir travailler sur déjà une alliance thérapeutique. Vous savez, franchir le pas d'un centre de consultation, c'est vraiment pas facile.
C'est pas une décision qu'on prend comme ça d'un coup d'un seul.
Non. Vraiment, c'est quelque chose qui est parfois même mûri. C'est-à-dire, les personnes se sont... Vous savez, c'est cet adage qui dit « demain, j'arrête ». Et tout le monde dit « mais non, demain, tu n'arrêteras pas ». Et je pense que beaucoup de gens n'estiment pas le parcours de la personne qui dit « j'en ai marre de ce produit, j'en ai marre de consommer, je ne peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi ». Mais effectivement, on parle du déni du patient, mais aussi on parle de la difficulté à franchir le pas et de dire à aller voir quelqu'un en disant mais j'ai un souci. Ouais. Et
c'est pas facile. C'est une vraie décision à prendre.
C'est une décision, c'est une démarche. Déjà, nous, on est là pour poser la personne, pour qu'elle soit rassurée sur l'accueil de façon très, très cordiale. Sachez que nous, on peut aussi accompagner de façon anonyme et gratuite. Nos soins sont gratuits, tout simplement parce que nous sommes financés par la Sécurité sociale. Donc, les gens n'ont pas à débourser déjà les premiers soins. Et ensuite, c'est essayer de trouver ce qui les amène là. Quelles sont les difficultés familiales, professionnelles, de santé? Est-ce qu'il y a déjà des suivis? Est-ce qu'il y a déjà des traitements mis en place? Où en est la personne de sa consommation? Depuis combien d'années? Quelles répétitions? Est-ce qu'il y a un entourage favorisant ou pas? Quelles sont les pertes que la personne a pu avoir tout au long de son parcours? Sachant que chez nous, par exemple, la moyenne d'âge, c'est 38 ans. Donc,
Alors, 38 ans, c'est plutôt jeune dans vos statistiques? Alors, comment ça se passe?
Si vous voulez, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis en addictologie. Il y a une vingtaine d'années, la moyenne d'âge était de 47 ans. Aujourd'hui, on est à 38 ans. Donc, si vous voulez, ça commence à baisser. Alors, ça baisse pourquoi? Tout simplement parce que, en termes, vous voyez, ce qu'on est en train de faire, c'est de la communication. Et le fait de travailler avec les médecins généralistes, les travailleurs sociaux, de communiquer au mieux pour pouvoir avoir une orientation précoce. Un médecin qui, effectivement, voit que son patient a des difficultés récurrentes et des bilans perturbés, peut effectivement dire « moi, tout ça, je ne le sais pas faire » ou je préférerais que vous soyez pris en charge par quelqu'un qui a plus de temps ou une équipe pluridisciplinaire. Et donc, c'est l'occasion pour... nous, on travaille ce qu'on appelle avec les médecins sur le RPIB. C'est le repérage précoce et l'intervention brève. On s'aperçoit que souvent, la question du tabac est posée, par exemple, par les médecins, mais pour les autres produits, très rarement, notamment l'alcool.
Donc la question n'est pas posée par le médecin à son patient?
Tout à fait.
Ça. Il y a
tout
une sorte de tabou, de...
Oui, parce que...
D'ignorance,
tout
peut-être,
à fait.
Du médecin?
Alors, pas forcément d'ignorance, mais effectivement, c'est... Poser la question de l'alcool à quelqu'un, sachant qu'on est dans un pays où il n'y a pas une occasion à ne pas boire, c'est compliqué.
Tous les jours, il y a l'occasion.
On dit que de la naissance à la mort, tout est occasion de fête. Moi, je suis breton, par exemple, et en Bretagne, quand il y a effectivement quelqu'un qui décède, bien, on fait une grande fête. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'accompagnais une jeune femme qui disait « mais moi, mon premier verre d'alcool, je l'ai eu à la naissance ». Je lui dis, c'est pas possible. Elle me dit, si, j'étais en Champagne. Et en Champagne, alors je vous parle de ça, cette personne doit avoir 55-60 ans aujourd'hui.
Jeune encore, en fait.
Un peu jeune, une jeune fille. Comme moi. Et vous aussi, voilà. Et en fait, la tradition, c'était que dans les cliniques, donc la personne, quand l'enfant naissait, on sablait le champagne. Et avant qu'il touche le sein de la mère, on donnait le champagne à l'enfant.
Un baptême champenois.
Un baptême champenois, que je me suis fait confirmer quelques années après avec une sage-femme qui a travaillé effectivement. Donc aujourd'hui, fort heureusement, ça ne se fait plus. Mais vous voyez, il y a encore plein de choses qui font que...
Oui, il y a une question de la culture régionale.
Complètement.
Qui est quand même encore imprégnée.
Mais vous, qui êtes une dame, c'est qu'est-ce qu'on disait il y a quelques années pour faire monter le lait? Qu'est-ce que les femmes devaient faire?
J'ignore.
Boire de la bière, vous voyez?
C'est juste.
Effectivement, c'est juste. Vous vous rappelez de ça. Hein,
ouais,
donc
oui,
voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que les gens, sa place de l'alcool est vraiment prégnante. Voilà, c'est quand même des tabous.
Toutefois, ce sont des vieux dictons.
Oui.
Et vous me dites en même temps que la moyenne d'âge a baissé.
Oui.
Et on, aujourd'hui.
Oui.
Or, ces vieux dictons, nos jeunes ne les connaissent pas. Et j'imagine que dans les cliniques champenoises, on ne donne plus la...
Non, c'est terminé. Mais néanmoins, vous voyez, vous êtes une femme enceinte. Si elle fume, on lui montre les grands yeux, vous voyez.
Ah oui,
alors
oui,
maintenant, effectivement,
vu, oui,
vous savez, sur les petites bouteilles, sur toutes les bouteilles d'alcool, vous avez un petit picogramme qui met que la femme enceinte ne doit pas consommer d'alcool.
Mm.
Il a fallu se battre pour que ça se mette en place. Et justement, aujourd'hui, moi, je fais partie du réseau périnatalité et addiction, et on travaille avec les sages-femmes, avec les gynécologues, etc., pour que le message passe. Un zéro alcool pendant la grossesse, parce qu'effectivement, il n'est pas rare, même là, c'est les fêtes de fin d'année. Mmh. Oh, allez, une petite coupe de champagne, ou puis un petit verre de vin, etc. Et en fait, voilà, il faut faire passer le message que non, c'est pas possible.
Donc on reste encore. Tout va bien quand on n'est pas sensible
tout à
ça.
Fait.
Mais il y a aussi un respect des personnes qui cherchent à se sortir de cette addiction.
Exactement.
Alors, dans votre conversation, dans vos propos, là, vous avez évoqué beaucoup de personnes différentes, hein, des personnes enceintes, des plus jeunes. Alors, quelle est l'image de cette population qui fréquente votre XAPA?
Alors, c'est une population vraiment hétéroclite. Nous avons quand même 35% de femmes, il ne faut pas l'oublier. Sur une file active de presque 1000 patients, nous avons 35% de femmes. Ce chiffre tend à augmenter, hein, c'est-à-dire que, vous savez, c'est plus compliqué pour une femme de consulter que pour un homme, tout simplement parce qu'il y a aussi la référence à la bonne mère. Hein, donc on est pas loin de Marseille, et à Marseille, il y a la bonne mère, et l'image de l'addiction par rapport au féminin est aussi une image qui n'est pas...
Une sorte de sentiment de honte.
Tout à fait.
Être comme ça.
Et puis un jugement de la part des autres. Hein, une femme qui boit, c'est pas une bonne mère. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus difficile pour une femme de franchir le pas d'une consultation ou d'accepter qu'elle ait un petit problème. Donc, c'est une population très hétéroclite. Chez nous, on a des commerçants, des artisans...
Des médecins.
Oui, ce matin, j'en ai reçu un qui est jeune retraité depuis le mois d'août, qui n'avait jamais consulté. Et c'est la première fois qu'il consultait.
Alors, à vous entendre, j'ai l'impression que la démarche est tout aussi... psychologique, comment dire, un accompagnement d'ordre psychologique des personnes que technique au fond.
Tout à fait.
C'est vraiment, il y a vraiment des choses à, pas des choses, mais des actes à rompre, à casser, des habitudes à casser, des représentations aussi.
Tout à
aussi.
Fait, oui. La représentation que l'extérieur pourrait avoir, mais aussi la représentation que la personne a d'elle-même.
Mmh.
Le jugement que la personne peut porter sur elle-même, et parfois c'est cruel. Alors faut pas oublier que on a tous une histoire. Hein, et que souvent, cette histoire, elle est émanée de ruptures, de changements, de pressions, d'ordre psychologique. La pression de la société aujourd'hui est complexe. Mais il y a vraiment une histoire qui est aussi particulière à chaque patient. Nous, et c'est effectivement, au niveau de l'ANPA, on travaille sur un projet individualisé. On ne met pas les gens dans des boîtes. Le projet est vraiment individualisé. C'est pour ça qu'il y a une équipe pluridisciplinaire. Notamment dans les médecins, on a un médecin psychiatre, donc c'est très important pour nous. Et des psychologues qui font de la psychothérapie. Voilà, un travail de soutien, mais aussi un travail psychothérapeutique. L'infirmière et moi, nous travaillons aussi sur la relation d'aide. Donc ça, c'est vraiment important. On travaille sur les liens familiaux, on travaille sur la reprise du travail quand il n'y en a plus, sur les violences conjugales aussi, sur tout ce que les gens peuvent traverser dans leur vie. Et vraiment, ça, c'est très, très, très important de pouvoir prendre soin de la personne. Et prendre soin, ce n'est pas que prendre soin du corps. Il y a des corps effectivement abîmés. Il y a quand on fait des examens médicaux, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des désordres comme du cholestérol, du diabète, des problématiques importantes au niveau gastro-entérologique ou au niveau neurologique. Mais prendre soin, ce n'est pas que prendre soin du corps. C'est prendre soin de la personne dans son intégralité.
Alors, vous avez évoqué, Serge Abotret, cette difficulté de franchir le seuil de votre XAPA. Mais alors, quand on franchit ce seuil, Combien de temps est-ce qu'on est amené à venir vous voir?
Alors, je plaisantais avec vous tout à l'heure, comme dirait Fernand Reynaud, un certain temps, hein, par rapport aux anciens qui se souviennent du fût du canon et qui, en même temps, le canon va refroidir. Non, il n'y a pas de, notion de temps.
Vous avez une moyenne quand même?
Non, il n'y a pas
même
de moyenne.
Pas, vous n'osez même pas le dire.
Non, parce qu'en
c'est
fait...
C'est pire que l'analyse.
C'est variable. Il y a des personnes, effectivement, qui viennent chez nous, parce qu'on fait aussi de l'information et du conseil. Donc, les gens peuvent venir et juste avoir une information, un conseil, et se dire, OK, je fais le point où j'en suis, et viennent qu'une seule fois pour dire, ben voilà, je vais peut-être modifier aussi ma consommation, je prends conscience de quelque chose. Et d'autres personnes qui viennent pendant 5, 6, 7 ans, voilà, parce qu'elles ont vraiment besoin d'accompagnement et de soutien. Donc, il n'y a pas de notion de temps, sachant que, vous savez, dans la vie, on est dans une chaîne, nous, on arrive sur la chaîne de vie à un moment précis, mais on ne sait pas si on va récolter les fruits de ce qu'on a semé. Et peut-être que nous, on va peut-être aussi récolter ce que les autres ont semé. Donc, on ne sait pas. Il n'y a pas de catégorie de personnes et surtout pas de temps, et surtout pas mettre de pression à la personne.
Il n'y a pas de calendrier en tête, dans 6 mois, un deadline, dans 6 mois,
non,
vous serez comme
ci, comme ça. C'est une erreur fondamentale, parce que souvent la personne se bat depuis de nombreuses années avec ça. On peut aussi travailler sur ce qu'on appelle la réduction du risque. Hein. C'est un concept qui vient de la toxicomanie, et donc on travaille là-dessus. C'est effectivement une personne, prenons une personne qui est tabagique, parce qu'on fait le tabac, on fait le cannabis, on fait le cocaïne, on fait donc tous les produits. Et imaginez quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour. Si elle arrive à fumer 10 cigarettes, à la bonne heure, déjà bah, pour sa santé, c'est beaucoup mieux, puis voilà, elle a gagné quelque chose. Au niveau des consommations de produits, notamment l'alcool, si la personne arrive à maintenir une alcoolisation qui est raisonnée par rapport à des alcoolisations qui sont parfois complètement borderline, effectivement, c'est intéressant de pouvoir travailler sur ce concept-là. Donc chez nous, on n'est pas pour l'abstinence à tout craint. Si le patient le désire, on l'accompagne à ça. Si le patient désire diminuer sa consommation et s'essayer dans cette diminution de consommation, on l'accompagne également à ça. Donc voilà, il n'y a pas... Hein, souvent, les gens disent « faut que j'arrête de boire », sauf que si on leur dit « plus jamais vous ne boirez un coup, plus jamais vous fumerez de cigarette, plus jamais... » Vous voyez, le « plus jamais » est quelque chose d'extrêmement totalitaire que le patient, même parfois, ne peut pas entendre. Alors, c'est souvent l'entourage qui dit « mais t'en finis, tu ne boiras plus jamais de ta vie ». Et ça, c'est compliqué. Donc voilà, on est vraiment sur un accompagnement individualisé qui fait que les gens peuvent s'essayer et peut-être même à un moment donné dire « Non, voilà, j'ai essayé la réduction, j'y arrive pas et je veux aller jusqu'à l'abstinence. » Mais déjà passer par des étapes intermédiaires.
Ce que j'entends dans vos propos aussi, c'est que la bienveillance, finalement, vient plus de votre lieu d'accueil, le XAPA, l'ANPA, que finalement la personne elle-même et encore moins l'entourage. Qui est plus exigeant que vous-même.
Ben voilà, c'est ça, le concept de bienveillance. Vous savez, il y a quelque chose qui ne fait jamais défaut sur nos bureaux, c'est la boîte de mouchoirs. Vous seriez surprise de voir effectivement que voilà, c'est un lieu où se déversent beaucoup de choses. La boîte de mouchoirs est très utilisée et parfois, les gens arrivent avec un sac hein, de vie bien rempli. De séparation, d'enfance difficile, etc. Et on ne se focalise pas que sur le produit. Hein, se focaliser sur le produit, c'est un faux problème. C'est effectivement, il y a un problème de consommation, mais il y a aussi un problème d'environnement et de vie. Et donc là, effectivement, quand les gens sentent qu'on est là pour eux et pas pour seulement le produit qui est là, là, ça change la donne.
Alors, Serge Abotret, vous évoquez là les difficultés. Est-ce que vous avez parfois des retours de personnes qui reviennent vous voir en vous disant « Ah, ça y est, Serge, j'ai gagné, oui. J'y suis arrivé, oui. J'ai réussi. »
Oui, non, autrement, on va déprimer.
À votre tour, vous
auriez besoin d'être suivi. Non, on va essayer de rester positif. Non, il y a des belles réussites et des vies qui, effectivement, changent. Vous savez, je vous donne un exemple. J'accompagne mon plus vieux suivi, ça fait 15 ans. Donc c'est beaucoup hein, ce que je suis en train de vous dire. Effectivement, quand j'en parle, les gens me disent « mais waouh, c'est énorme ». Eh bien écoutez, cette personne-là, il y a 15 ans, elle était dans une clinique psychiatrique, elle était hospitalisée entre 6 et 8 mois par an. Ses deux enfants étaient placés, elle ne travaillait plus bien sûr parce qu'elle était à la hache, et ses enfants étaient placés. Quand on sait le coût de l'hospitalisation et le coût d'un placement de deux enfants, vous imaginez ce que ça peut avoir comme coût de société. Depuis qu'on l'accompagne en lien avec un psychiatre à l'extérieur, cette personne n'a pas eu une journée d'hospitalisation. Entre-temps, elle a récupéré ses enfants, elle a refait une formation, elle est informaticienne aujourd'hui, elle travaille. Elle est passée par le décès de ses parents, des ruptures conjugales, sentimentales, et elle n'a pas rechuté, en tout cas n'a pas eu un seul jour d'hospitalisation. Donc, vous voyez ça, je dis souvent pour plaisanter, pour elle, c'est mon salaire multiplié par je ne sais pas combien, et pour les autres, c'est cadeau.
Bon, voilà une belle histoire pour conclure cette émission, Serge Abautret. Peut-être voulez-vous redonner les références de l'AMPA et du XAPA.
Et je préciser quand même qu'on a une consultation pour les jeunes consommateurs. Ne pas oublier qu'effectivement, la consultation de jeunes consommateurs, c'est important parce que plus on consulte précocement, donc consommateurs, en général, c'est cannabis, alcool, jeux vidéo, vous voyez, donc rarement cocaïne, donc très jeune, très jeune, mais effectivement, enfin, à partir de 18 ans, 19 ans, le cocaïne aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est extrêmement démocratisé, il y en a partout, enfin, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de soirées où il y a la cocaïne, qui pose effectivement des difficultés. Donc nous avons une consultation à la Maison des Adolescents à Montpellier.
Un autre lieu,
qui se retrouve sur Montpellier au centre-ville, mais peut-être que les auditeurs connaissent. Je vais juste regarder l'adresse pour ne pas l'avoir bien en tête. C'est 9 rue de la République à Montpellier. Voilà. Et également, on a une consultation au centre pour les jeunes consommateurs, donc au 59 avenue de Fès. Oui, je voulais vous donner le numéro de téléphone également. C'est le 04 99 77 10 77. Je répète, 04 99 77 10 77. Vous avez un standard téléphonique qui est chargé de mettre les rendez-vous sur les différents professionnels. Nous sommes ouverts donc du lundi au vendredi. De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, et également le jeudi jusqu'à 20h, pour permettre aux personnes qui travaillent de pouvoir consulter. Et sur Clermont-Lérault et sur l'Odève. Voilà, donc ça veut dire que orienté en général par les infirmières scolaires, les assistantes sociales de scolaires, ou effectivement l'entourage, la famille, ou les médecins, parfois.
Un adolescent mineur peut venir vous trouver.
Tout à fait. Voilà, vraiment, sachez qu'on va vous accueillir avec bienveillance. Et avec respect de vous-même, je sais vraiment que cette démarche est complexe à faire, mais voilà, où il n'y a aucun jugement, sachez que vous pouvez venir de façon anonyme et gratuite, vous pouvez avoir en face de vous des professionnels bien à l'écoute, n'ayez pas peur, je sais que ce n'est pas facile de faire cette démarche, c'est pour ça que je le répète, pour vraiment que les gens puissent être rassurés par rapport à ça, et vous verrez, on essaiera de prendre soin de vous. Enfin, je dis essayer, bien sûr.
Merci Serge Abautret du XAPA, qui dépend donc de l'Association nationale de prévention de l'alcoolologie et d'addictologie. À bientôt.
À bientôt, merci.